Bonjour, je voudrais simplement des renseignements sur l'émission de Daniel Mermet là-bas, si j'y suis. À quel numéro et à quel horaire on peut l'écouter. Merci beaucoup.
Ouais, je m'appelle Oscar, je suis argentin, j'habite ici en Bretagne. Et vraiment, chapeau à toute l'équipe, c'est génial. On pense souvent que la démocratie est morte, mais on voit qu'il y en a des millions. Et moi, je participe à votre affaire en tant qu'étranger, mais je me plais chez vous et je crois que ça fait partie des tas de gens qui en aiment la France. Et on va se battre pour qu'elle devienne ce qu'elle doit être, quoi. Ouais, je suis auteur-compositeur à la maison. On a une compagnie de spectacles pour les enfants, comédie musicale, etc. Et si jamais l'équipe y passe pour la Bretagne, vous êtes bienvenus. Café, accueil, il y a un jardin devant. Bisous à tout le monde et bonne continuation. Et à bientôt. Salut.
Salut Daniel, les Aïs du Puy-de-Dôme sont toujours mobilisés. Ouais. Merci. Voilà Daniel, ici Joël de Clermont, assistante sociale en grève aujourd'hui. Et bien aucune de nos revendications n'ont été entendues, donc nous serons 68 mises à pied. Tout ça pour défendre une qualité de travail. Tout ça aussi sur un conseil général de gauche, soi-disant. Merci de nous apporter votre soutien. Au revoir.
Oui, bonjour à tous. C'était simplement pour dire combien l'émission d'aujourd'hui m'a beaucoup émue. C'était sur les Chibani. Plus particulièrement, je crois, lorsque vous avez diffusé ce petit bout de la chanson de Slimane Azem. C'est vrai, la Kabyle que je suis a été doublement émue. Merci de penser à toutes ces personnes dont on parle peu, dont on parle pas assez souvent. J'ai eu beaucoup d'émotions, c'était chouette d'entendre ça. Voilà, merci, au revoir. C'était Nadia.
Je suis fille de déportés résistants alsaciens. Voici mon message. Pendant que les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale de nos anciennes colonies obtiennent une réparation partielle de leur discrimination, je signale que les anciens SS alsaciens bénéficiaient de la solde complète depuis toujours et vont même profiter des 2% d'augmentation. Ils ont déjà réclamé et obtenu des croix du combattant, des titres de mort pour la France, et maintenant ils se mêlent aux pupilles de la nation pour réclamer des pensions aux orphelins de SS. Parmi eux, les SS alsaciens titulaires de solde d'anciens combattants, il y a bien sûr ceux d'Oradour. La moitié des SS alsaciens étaient volontaires et l'assassinat était la norme.
Voilà, j'appelle, je suis de la CGT, du Puy-de-Dôme, et comme je l'ai fait à d'autres années, j'appelle pour annoncer la fête qu'on organise samedi 30 septembre 2006, à partir de 14h, il y aura de l'animation pour les enfants, les gens peuvent venir avec leurs enfants, il y aura des forums débats, tiens, un titre de forum débat de 36 à 2006, les luttes et les acquis du mouvement social, il y aura du théâtre, il y aura des concerts, il y aura un bal, bien sûr, il y aura des films, il y aura l'usine des Enchantés, les 46 de Renault, il y aura les apprentis sorciers sur EDF. Voilà, c'est une fête qui est ouverte à toutes et à tous, bien sûr, c'est pas une fête seulement pour les militants, les syndicalistes CGT. Il y aura de la convivialité et puis on va essayer de se filer la pêche parce que finalement, la lutte continue. À très bientôt. Alors donc c'est samedi 30, samedi 30, là celui qui vient, là à partir de 14h, c'est à Gerza, sur la route qui est en direction de Sébazar, à la CMCAS EDF. Voilà, salut à toutes et à tous.
Merci pour tous ces messages. Je pense que le message concernant les Alsaciens prête à caution et à précision. Je pense à un certain nombre de malgré nous qui ne vont pas manquer de réagir. Il faut une suite évidemment à un tel message, mais je le choisis quand même parce que je le trouve intéressant. Cet auditeur parle de fête. Je voudrais vous dire qu'ici c'est la fête aussi. Là où je me trouve, c'est à Golbar. Golbar, c'est une ville qui est juste à l'entrée du Panchir. C'est à 2 heures au nord de Kaboul, et au Dadgolbar, et bien commence la vallée, la fameuse vallée du Panjshir, le fief de feu Massoud. Et on est là ce vendredi, le jour décline. C'est un moment très très agréable. C'est Ramadan. Donc tout est lent, tout est ralenti, tout est un peu ramolli. Et puis c'est vendredi, donc c'est le dimanche des musulmans et c'est le dimanche ici en Afghanistan. Et je tourne la tête parce que je vois un gars qui arrive dans sa bagnole. Je le vois à travers les flammes d'un feu qu'on a allumé pour nous, un feu de bois de vigne, de cèpe de vigne, parce qu'on va faire des brochettes, on va dîner là dans ce resto. On fait un dîner pour les touristes que nous sommes, et on intrigue évidemment, même si c'est une ville assez commerçante, Golbar, on a l'habitude de voir du monde, mais on intrigue. Et là, il y a un monsieur qui ressemble tout à fait à un Shibani. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet des Shibani, de nos Shibani à nous, en l'occurrence ceux de Marseille. Et là, c'est un vieux monsieur qui parle avec Essan, notre ami afghan traducteur, et qui lui dit « Mais qui c'est ce gars-là là, qui parle en ce moment ?» Essan lui dit « Ben voilà, c'est un Français. » Et le vieux monsieur dit « Mais il sait ce que c'est le Ramadan parce que le vieux monsieur est avec son chapelet, avec sa barbe blanche et tout. Alors Essan lui dit « Oui, oui, il sait ce que c'est. Ah bon, bon, bon. Mais lui, il mange. » Alors Essan lui dit « Oui, oui, bah oui, c'est lui, il mange et c'est un chrétien, alors il mange. » Alors le vieux monsieur dit « Mais c'est très bien, Dieu a créé plein de personnes différentes, plein de religions différentes. Il y a ceux qui mangent pendant le Ramadan et ceux qui ne mangent pas pendant le Ramadan. Et voilà, c'est Dieu qui l'a voulu. » On est dans un petit moment comme ça, heureux, suspendu, de tolérance. En face de moi, je vois des étals de commerçants. On vend d'énormes pastèques. C'est la saison du raisin. C'est un raisin très particulier ici, très bon mais délicieux, sans pépins. Et puis voilà, il y a tout un achalandage de produits. C'est une ville très commerçante. Tout le Panjshir vient se fournir ici à Golbar. Et qu'est-ce qu'on fait ici à Golbar? Eh bien, il y a 5 ans, pour ceux qui ont vraiment une bonne mémoire, les vrais AMG, les vrais auditeurs modestes et géniaux, il y a 5 ans, on était ici et Give s'était fait raser chez un barbier. Ici. Et c'était pas rien de se faire raser parce que on était à quelques jours de la chute des talibans et vous vous souvenez que les talibans avaient imposé le port de la barbe. Et donc on est retourné chez ce barbier, on a retrouvé le barbier et à nouveau, Bive s'est fait raser. Mais on n'a pas trouvé tout de suite le barbier parce que, eh ben, il a pas fait fortune. Mais enfin, il a fait une bonne fortune, disons, à l'occasion de la chute des talibans. Et oui, il a eu des centaines, sinon des milliers de barbes à couper et à raser. Et donc, il a revendu son salon de barbier coiffeur. Et puis, lui, il en a ouvert un autre un peu plus loin. Alors, c'est pas une multinationale. Mais voilà, on a donc devisé joyeusement avec notre ami le barbier, tandis que Give se faisait raser la barbe. Une chose qui a changé en 5 ans, c'est que maintenant il y a du savon, alors qu'il y a 5 ans, c'était à vif, simplement, la lame directement sur la peau. Voilà ce qui nous arrive, on va grignoter ici, puis après on va remonter vers le Panjshir. Je vous laisse donc avec le deuxième volet de notre reportage à Marseille sur et avec les Shibani, juste après les messages que voici parmi ceux que vous avez laissés sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
À partir d'une enquête du ministère des Finances, 8500 postes pourraient être supprimés dans l'enseignement public. Si cette mesure se met en place, la qualité des services dans l'enseignement public en serait très affectée. Qu'il y ait des modifications, des ajustements, des réformes à opérer, personne n'en doute. Prenons l'exemple du remplacement des enseignants en congé de maladie. Il faut tout d'abord se référer au taux d'absentéisme qui est d'environ 3,5% dans l'enseignement pour 10% dans les entreprises du secteur privé et mettre en place des mesures appropriées. Le système dit titulaire sur zone de remplacement que nous connaissons dans les lycées n'est peut-être pas convenable. On pourrait lui préférer une structure interne à l'établissement qui serait sous la responsabilité du proviseur et non du recteur. Ainsi, les titulaires ne se déplaceraient pas de Vannes à Lorient ou à Questembert. Concernant le fait que nos élèves de seconde et de première sont libérés un peu tôt dans l'année scolaire afin de ne pas perturber le déroulement des examens, il serait possible de mettre en place une structure éducative pour eux différente pour le mois de juin. Quel que soit le problème éducatif auquel on s'intéresse, on ne peut se résoudre à supprimer 8500 postes dans l'enseignement si notre préoccupation première est la qualité du service. Par souci d'économie, le ministère de l'Éducation ou les rectorats pourraient cesser de nous envoyer leur littérature, comme le journal d'information de la communauté éducative, question d'éducation, par exemple. Voilà. Faire de la politique, c'est choisir. Kenavo.
Salut Daniel, salut à tous. J'ai entendu l'émission d'avant-hier sur le maton et sur le répondeur d'hier. Il y avait quelqu'un qui avait fait partie du Génépi à Poitiers. Et le Génépi, en fait, c'est une association uniquement composée d'étudiants bénévoles qui intervient dans les prisons partout en France et qui essaie aussi à l'extérieur de faire un peu bouger les choses sur la prison. On est un peu plus de 1000 partout en France, ce qui n'est pas trop pour 59 000 détenus. Et en fait, on est en pleine campagne pour essayer d'avoir de nouveaux bénévoles qui sont d'accord pour intervenir toute l'année. Donc il suffit juste d'être étudiant et motivé. Vous pouvez venir sur le site internet www.genepi.fr. Il y a toutes les coordonnées. Ou nous appeler au 01 45 88 37 00. Voilà. Merci pour tout et à bientôt.
J'ai écouté le silence assourdissant des médias qui n'ont rien dit sur l'article 10 de cette loi scandaleuse votée par les députés UMP scélérats autorisant la privatisation forcée de GDF. Écoutez bien, messieurs les députés UMP. Lorsque vous voterez mardi cette loi infâme au service des dividendes futurs de Suez GDF, vous allez scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Et plus dure encore sera la chute de votre petit caporal en chef Sarko qui vous commande. Et oui, nous avons des millions de bulletins de vote, monsieur Sarkozy. Nous nous souviendrons de votre promesse solennelle faite devant l'Assemblée nationale de ne jamais privatiser EDF-GDF en 2004. Une promesse qui n'engageait que nous tous, stupides électeurs par millions. Monsieur Sarkozy et tous vos députés renégats, vous nous avez trahis. Le mal est fait. Nous ne sommes pas de stupides électeurs qui oublient vite et se laissent manipuler. Nous voterons bientôt, monsieur Sarkozy et toute votre clique. C'est Christophe de Tours, un AMG de là-bas si j'y suis.
J'écoute ton émission, j'ai entendu une dame qui trouvait que c'était quand même incroyable la privatisation de GDF. Elle a bien raison, c'est incroyable. Et je voudrais ajouter à ce qu'elle vient de dire quand même que GDF, ben c'est à nous, comme tout ce qui déjà a été vendu, les autoroutes, tout ça, c'était à nous. Et voilà, quand quelqu'un est propriétaire d'un bien, on lui demande son avis avant de signer la vente. Et même, c'est lui qui signe la vente. Alors comment se fait-il qu'on ne nous demande pas notre avis? Moi je dis il faut attaquer l'État français, il faut attaquer les représentants politiques qui votent ces privatisations, parce qu'ils ont beau avoir été élus, on ne leur a pas signé une procuration leur disant c'est vous qui nous représentez en tant que propriétaire de ces biens-là. Il faut porter plainte, rendez-nous nos autoroutes et laissez-nous notre énergie, c'est à nous. Ou alors demandez-nous notre avis. Allez, ciao, bonne route.
Le 3 octobre 2006, les fédérations CGT, Force ouvrière, CGC, CFTC, de l'énergie appellent à une nouvelle journée d'action et de manifestation pour s'opposer à la destruction du service public et à la privatisation de Gaz de France. Chacun est pourtant convaincu que l'énergie et le marché ne peuvent pas faire bon ménage. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. L'association des consommateurs, UFC Que Choisir, estime que la facture d'énergie augmentera de 66% pour les Français, en passant en moyenne de 1400 euros par an par foyer à 2324 euros. Des analystes financiers estiment que 20 000 emplois seront impactés par le projet de fusion Suez-Gaz de France pour permettre une meilleure rentabilité aux actionnaires. Des experts internationaux en Belgique, en Russie et même aux USA expliquent que ce projet de privatisation n'est pas bon pour la France. Alors le 3 octobre, pour poursuivre l'énorme travail de conviction, nous vous proposons de manifester partout, agents EDF, Gaz de France, mais aussi les usagers, tout le monde. Grande journée nationale de mobilisation. Allez, ciao.
Je suis allongé, je regarde la télé, j'entends la radio. Des fois, je rentre à la radio, des fois, je regarde la télé. Ce qui se passe, c'est tout. Sinon, ça. Bon.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis avec Pascal Le, Pascariello, les Chibanis de Marseille.
Flight number 2, arriving from New
York. Ça y est, le petit déjeuner est prêt. Je vous en prie.
Oui, c'est tout. Non, ça, je l'ai. Ah, excusez-moi. Je l'ai fait, mais si je suis là, parce que c'est ça. Allez, allez. Allez, je suis là. Ben voilà, donc je prépare le petit déjeuner. Habituellement, j'ai une bénévole, quelquefois deux, des dames qui habitent le quartier, qui viennent nous donner un coup de main.
Et alors, Nadia, expliquez-moi, on est donc au centre social, au cœur de Belzance. Et chaque matin, c'est le petit déjeuner pour l'ensemble des Chibanis.
Tout à fait. Alors, le petit déjeuner, c'est une des actions importantes du centre social pour les vieux migrants. Il est réservé pour ceux qui habitent les hôtels meublés et les foyers sur la côte, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre leur petit déjeuner dans leur domicile, enfin, dans leur chambre. Il y en a même qui viennent de vraiment loin. Hein, ils viennent à pied, ils marchent et autres, juste pour venir prendre le petit déjeuner. Et parmi eux, il y a même des malades, vous avez dû rencontrer, qui viennent pour ça. Après, en général, ils restent. Il y en a qui restent dans la salle d'attente. Ça, c'est incroyable. Ils restent dans la salle d'attente parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Donc, surtout en hiver, vu qu'il fait très froid, que dans les hôtels meublés, ceux qui habitent dans les environs, de toute façon, les chambres ne sont pas chauffées, que du coup, ils viennent prendre leur petit déjeuner ici et ils y restent dans la salle d'attente, juste assis sur des chaises, rien que pour tuer le temps, on va dire, entre guillemets, et pour pouvoir être au chaud... En général, ils y restent jusqu'à 11h quelquefois, puis après, ils sont bons.
Et dans le centre-ville, là, c'est un petit peu comme un lien social pour eux, non ? C'est un repère ?
C'est un repère, effectivement. C'est d'ailleurs, il me semble, le seul repère au niveau du quartier pour les vieux migrants, donc surtout originaires du Maghreb. Bon, on peut dire aussi, il y a certains cafés, mais il faut consommer dans un café, donc c'est pas toujours pour eux non plus. Les mosquées, d'ailleurs, les vendredis, pour les heures de prière, ils y vont tous. Et on voulait ouvrir un espace pour eux, un centre d'accueil de jour, on va dire, qui serait donc un lieu où ils prendront leur petit déjeuner, où ils y resteront pour faire leurs activités, où c'est l'endroit aussi où ils feront tout ce qui est suivi administratif, aussi pour le lavage des vêtements et tout, parce que là, nous, on a des conventions avec des laveries, donc on leur donne des tickets, ils vont dans les laveries pour laver leur linge une fois par semaine. Les personnes âgées, vieux migrants que nous recevons le plus sont ceux qui sont isolés. Donc, qui n'habitent pas dans des appartements, qui ne sont pas dans des cités, qui sont dans des foyers ou qui sont dans des hôtels. Le réseau d'amitié, il existe entre eux, mais ça s'arrête là. Maintenant, c'est dû à quoi ? Parce que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas fait le jeu de faire cette information. Il y a de ça. Il y a que chacun a ses problèmes. Et effectivement, il n'y a pas une réelle solidarité ou un réel travail intergénérationnel. Nous essayons de le faire, nous, dans le cadre de certaines activités, mais ça reste ponctuel. Est-ce que maintenant, même dans le cadre des familles, ça existe aussi ? Effectivement, ça existe aussi. Par exemple, il y a des familles qui sont là depuis 3-4 générations. Les parents, les enfants, les grands-parents, ça reste qu'ils sont en contact. Ils ne sont pas si isolés les uns que les autres. En tout cas, ils ne sont peut-être pas aussi liés qu'ils le sont encore dans les pays du Maghreb, si je ne prends que ce cas-là, où le grand-père a encore le droit de dire à sa petite-fille de ne pas mettre cette jupe qui est trop courte, un exemple. Mais ça n'empêche que ici, un grand-père, je ne crois pas qu'il ait quoi que ce soit à dire à sa petite-fille. Elle en verra vite fait, bien fait, balader. Hein, ça, il me semble, hein, écoutez, moi je suis d'origine algérienne, je peux vous dire que j'ai deux filles, elles font ce qu'elles veulent, on a fait le choix, elles nous le plaquent comme ça à la figure, hein, vous nous avez ramené ici, moi je peux pas jongler entre ici et là-bas, ton nombril en l'air c'est un peu trop, ça colle pas, ça marche pas, elles comprennent pas, donc, et pourtant on est dans une famille. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des autres jeunes vis-à-vis de ces vieux qui sont isolés, si je reviens encore à eux, je suis sûre qu'effectivement, ils les ignorent. Parce que qu'on le veuille ou pas, même en Afrique, même dans les pays d'origine, ça change aussi. Les conditions économiques, on fait en queue maintenant les jeunes, on s'occupe encore de son père, de son grand-père ou autre, mais de moins en moins. On n'a pas trop envie de partager le même appart, alors qu'avant, ils vivaient à 17 dans un appart et c'était normal. Donc les choses changent de partout ici.
Vous habitez où?
Là, aux deux rues de Bernard de Poix, là, quand vous montez, là, dans un hôtel. Oui.
Non, je vous en sortant
du
centre.
L'hôtel Poré.
Vous êtes arrivé quand en France?
Longtemps que je suis arrivé en 63.
1963.
Oui, je suis ancien maigré, c'est pas de 10 ans ou 15 ans. Depuis 63 jusqu'à présent, je suis à 65 ans.
Et vous, votre famille, elle est.
Elle est en Algérie toujours. Ils sont là-bas, toujours. J'ai pas de logement, commentez-vous, que j'ai invité les enfants et la mère et tout. Je peux pas.
Vos enfants, ils ont quel âge?
Ah oui, il y en a 19 ans, 17 ans, 14 ans. Et j'ai deux grandes. Il y en a qui fait 27 ans. Il y en a qui fait plus de 30 ans. J'ai quatre filles, trois garçons. Je descends tous les deux, trois mois, je redescends. Il est toujours à son recharge. Il y a les quatre derniers, l'école et tout le truc. Et les autres, ils sont grands, ils n'ont pas travaillé, rien du tout. C'est ça, me charge toujours. C'est moi qui se démerde.
Et vous avez combien de retraites par mois?
J'ai 619, 600. Ça dépend que moi. 619, 620. Vraiment.
Cacher ce vieux que l'on ne saurait voir, les plus maltraités des retraités. Les Chibani, ça veut dire vieux en arabe. Je crois que c'est à peu près ça le sens que ça a. Même si ça en blesse certains, on a vu Amar, pas encore vieux quand même, en route pour être Chibani, mais pas tout à fait encore. Je ne sais pas si ces petits qu'on vient de rencontrer, que Pascal vient de rencontrer dans ce foyer, ce centre social à Belzins, pour le petit déjeuner, parlera de ça. Mais il va parler de sa vie, il va parler de sa vie ici, sa vie là-bas, comment il a quitté là-bas pour venir ici et comment il est coincé entre deux vies, en somme. C'est le profil habituel, le blues habituel, l'hésitation connue, archi-connue de l'exil. On est venu, on a quitté la terre natale, espérant vivre mieux ailleurs. Il fallait faire de l'argent et on est venu en France, on est venu de son propre gré ou pas. On venait chercher là, à l'époque, dans la fin des années 50, début 60, on recrutait. C'était les 30 Glorieuses, il y avait du boulot en France, en veux-tu, en voilà. Et évidemment, tout logiquement, on allait chercher la main-d'œuvre là où elle était la moins chère, la plus vulnérable et la plus exploitable, logique capitaliste bien connue. Le temps est passé, les choses ont changé, on connaît tous les problèmes qui touchent tout le monde d'ailleurs aujourd'hui, mais qui touchent évidemment plus spécialement les plus vulnérables quand ils commencent à se faire tard dans la vie, eh bien, il y a la retraite. Et beaucoup de ces Shiba Inu ignorent leurs droits. Certains sont illettrés, n'ont pas toujours conservé les papiers d'un hôtel à un foyer, d'une valise l'autre, d'un bord à l'autre de la Méditerranée. Ils ont souvent bossé pour des employeurs pas toujours très délicats, qui ont oublié de les déclarer. Et aujourd'hui, ben, pour bénéficier du minimum vieillesse qui est autour de 600 euros, pour ça, ils doivent résider en France au moins 6 mois de l'année. Ce qui les oblige évidemment à cette obligation de résidence les oblige à d'incessants allers-retours, coûteux allers-retours, qui conduit certains à ne pas retourner au pays, puisque évidemment, au pays, bah, c'est quand même plus difficile de se faire soigner, il n'y a pas les mêmes conditions. Alors, ben, la plupart vivent dans ces foyers ou dans ces hôtels peu adaptés, évidemment, à la vie de retraités et à la perte d'autonomie qui va venir et qui viendra plus tôt. Pour ces travailleurs-là, on a calculé que cette perte d'autonomie pour les origines... Comment disait celui d'hier, ce jeune d'hier, qui n'est pas des Français de Louis XIV. Alors, pour les Français de Louis XIV, c'est 82 ans, intervient ce virage du grand âge. Et pour les Chibani, ben, ils ont fait des boulots très durs, ils ont travaillé dans les hauts fourneaux, ils ont travaillé dans les mines, ils ont travaillé dans les bâtiments, dans le travaux publics, etc., des boulots très durs, et c'est plus tôt, c'est à 75 ans. Il y a une différence de 10 à 20 ans d'usure physique entre les Chibani et les autres travailleurs, les autres salariés. Bref, vous avez compris, la France se conduit mal, très mal, vis-à-vis de ceux qui ont contribué à faire ce pays. Quand on dit la France, il ne faut pas non plus se tromper, ce n'est pas tous les Français, il ne s'agit pas de jeter une culpabilité collective, certainement pas, mais voir la responsabilité de chacun, la responsabilité des enfants de ces immigrés. On entend Nadia qui, elle, prend ses responsabilités, on en verra d'autres, mais surtout, évidemment, la responsabilité, elle est celle de l'administration, elle est celle de ce pays, elle est celle aussi, en l'occurrence, de la ville de Marseille. C'est notre sujet sur France Inter, la basse édition.
خطرات يبان لي كل منهم خطرات نشوف قبالي نملكني الغرام من صغري وانا يا زهواني هجو علي التفاكير ما ننسى شي والصبر فناني نتفكر الايام يا حصراه يذكرهم ملزني طاروا مثل الطيور سافروا راحوا البر الخالي خطرات يبان لي كل منام وخطرات نشوف قبالي كيفاش راح كيفاش تبدل أرواح ذاك الزمان غاب خيال وما بان وانا مازال في بالي خطرات يبان لي كل منام وخطرات نشوف قبالي خطرات يبان لي كل منام وخطرات نشوف قبالي
Ah,
Regardez, regardez, les tous pensifs, tous on a l'impression qu'ils sont ailleurs, qu'ils pensent, bon voilà, il y en a qui sont seuls, il y en a qui discutent entre eux, mais vraiment, on voit la misère, quoi. La misère après avoir travaillé sans doute pendant 30 ans.
Sur un parking et sur une espèce de plaque.
Entre deux voitures presque, on a l'impression qu'ils s'effacent, ils s'effacent, ils essayent même de s'effacer. C'est l'image la plus triste qu'on voit et tous les jours, c'est pas évident.
Et en même temps, quelle dignité.
Oui, absolument. L'impression que j'ai quand on les regarde comme ça, regarder l'autre à planter comme ça, regarder, mais ils regardent rien, on sait même pas qu'est-ce qu'ils regardent. Ils sont là à faire passer le temps, à tuer le temps. Je suis sûre que ils sont en pleine introspection, on va dire, et ils vivent un échec. Même si le mot, ils ne le disent pas, ils ne le connaissent pas, je suis sûre que quelque part, ils doivent être vraiment malheureux. Vraiment malheureux parce qu'ils sont coupés de tout. Coupés de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Je parle bien de ceux qui ont laissé leur famille là-bas. Parce qu'ils ne les ont pas vus grandir, donc la rupture est liée de fait. Coupés même de leur épouse, parfois, qu'ils ne les connaissent ni, ils se connaissent que pour durant des vacances. Je sens leur profondeur, même s'ils ne le disent pas, quoique souvent ils le disent, si je savais, je ne serais jamais venue. Ils le disent, mais ils disent en même temps, mais si j'avais ma famille avec moi, je suis sûre que ce serait mieux.
Exactement, ils naviguent voilà. Entre les deux.
Mais sauf qu'il aurait fallu aller interroger ceux qui sont en famille ici, est-ce qu'ils disent eux aussi la même chose? Je ne suis pas certaine, je ne suis pas certaine du tout, même si eux ont un bon lit, même eux, ils sont quelque part coupés de quelque chose, donc ils sont là-bas étrangers, ils sont ici étrangers. C'est l'exil. Je ne sais pas si c'est partout dans le monde, c'est comme ça l'exil, mais quand on voit ces images-là, c'est pas évident.
C'est Sabti.
Sabti.
Je m'appelle Sabti, oui.
Et on s'est vu en fait au petit déjeuner du centre social.
Voilà, dans le centre social de Benzès, là.
Vous y allez tous les matins au petit déjeuner?
On va y aller sauf le samedi, dimanche, qu'on va y aller pas parce que c'est fermé. On est toujours malheureux de domicile, malheureux de ça, malheureux de tout. Et ce qu'il y a qui nous a fait vraiment dégoûter, c'est l'hôtel. Il n'est pas propre. Là, j'ai mon domicile, j'ai le premier étage, le deuxième. J'ai tout construit. Il y a deux garages. En bas, et puis moi j'ai habité au premier. J'habite dans une ville, ça s'appelle Olma. C'est à côté de Sétif.
Sétif, c'est là où il y a eu le massacre en mai 45.
Wow. Moi, mon père, il a été tué par la France. Mais je
père, vois... il a été tué par la France.
Ah oui, le massacre de la guerre de l'Algérie. Mon père, le frère de mon père, c'est mon cousin, toutes les.
Mais pourquoi ils ont été tués?
Eh bien, il y a des mouchards qui sont là-dedans. Ils disent, voilà, c'est lui qui fait le contre, c'est lui qui le fait contre. Ben, hop. À ce moment-là, c'était en 1956, le 19 juin. Quand je suis rentré l'après-midi, vers 3h, 4h, l'armée française nous a brûlé toute la maison. Je vois toutes les femmes bleues, les enfants, les autres étaient morts. Eh bien, elle est morte, c'était. Moi, j'avais 14 ou 15 ans. Avec ma mère et mon frère, et on a déplacé parce que l'armée est restée 2 ou 3 jours. Il vient avec l'avion, le contrôle. Nous, on était rentrés dans un village qui s'appelle Satarno.
Vous êtes caché avec votre maman.
Jusqu'à la débanda. À la fin de compte, le pauvre malheureux, il est toujours étrine. L'écraser même par l'État algérien. Il ne nous a fait rien du tout. C'est ça que j'ai regretté. Si je ne suis pas ici en France, que j'y travaille, que je suis. J'ai envoyé pour mes enfants. Au ciné, il aurait été crevé. Quand la France les a donné le débondant à l'Algérie, il y a un bureau qui s'est été ouvert, on appelle Mondavre.
bureau de main d'œuvre qui s'était ouvert en Algérie.
Qui s'était ouvert en Algérie, si lui qui voulait travailler puisse finir en France.
Et vous alliez en France, le pays qui avait tué votre père.
Non, et le monde avait dit, si vous voulez travailler, vous rentrez en France. Quand j'étais perdu, je me suis engagé, j'ai allé travailler, je ne me mets pas dans la tête c'est qui m'a tué mon père. Ben, la guerre, c'est la guerre. La guerre. Tout le monde, il aurait été besoin de l'argent pour venir travailler.
Vous aviez besoin d'argent?
Quoi? Si on n'était pas besoin d'argent, pourquoi on s'en venait? Moi, je suis rentré en 63 ici.
En 63?
Oui. J'avais peut-être 21 ans ou 22 ans.
Et donc, vous en rappelez de ce jour où vous êtes parti?
Ah, bien sûr, je me rappelais, oui. Le 2 au 3 mai, je suis parti de l'Algérie, je suis rentré là vers le 5 ou 6. Mai 63. On aurait été fier, on était bien content d'y aller, traverser pour voir gagner le pain. Parce que c'est, quand on travaille, on a l'argent, on fait ce qu'on veut. Voilà.
On était fier.
Ah oui, j'étais fier, vraiment, vraiment fier. J'ai descendu ici à Marseille, j'ai pris le train. J'ai une tante, elle était en France, à Rouen.
À Rouen, à côté de la Bourgogne.
Oui, je suis pris deux trains ici de Marseille, j'ai descendu à Rouen. Le train, chaque gare qui descend, qui freine, j'ai descendu par terre, j'ai demandé le contrôle. Monsieur, voir l'adresse là. Il dit, voilà, restez tranquille, quand on va arriver. Quand tu j'ai... Oh, je te jure.
C'était la première fois que vous preniez le train.
C'est la première fois que j'avais pris le train.
Et vous, vous parliez français?
Non, je ne parle rien du tout, du tout, du tout. Moi, je me parle en arabe, monsieur. Un coup de signe, comme ça, il me comprend, bien sûr, comme c'est arrivé. Et oui, mademoiselle. Alors, quand je suis sorti, j'ai trouvé deux, trois en arabe qui viennent de passer. Parce que les gens, ils habitent hein, dans ce village-là. Les anciens qu'ils ont ici, avant. Ils m'ont emmené directement dans le centre de foyer. J'ai resté commencer à travailler.
Et vous avez commencé à travailler dans quoi, alors?
J'ai travaillé pendant deux ans et demi, trois ans, dans le chantier. Fait le béton. Tu connais le béton?
Oui, la bétonneuse, ouais. Le truc qui tourne.
Il tourne, il fait des parterres. Il y en a qui fait le ferraille, il y en a qui fait le poiseur, le poids. Le ferraille, c'est plus dur. On coupe les ferrailles. Et bien, heureusement, on avait un césa électrique. Parce que si tu coupes avec un césa à la main, tu n'arriveras jamais de couper une ferraille comme ça. Un jour, le grutier qui tourne la grille, là, il est parti en Algérie vacances. Il y a le chef, il me demande, alors, Septi, si tu connais un peu conduire la grille.
La grue.
Oui, la grue.
C'est mieux, vous êtes assis. Oui.
J'ai dit oui, moi je ne suis jamais touché. Tu étais bien, j'ai tout compris, j'ai tout... Je tourne dans la cabine, là, il y a le machin, une batterie comme ça, il y a tous les boutons. Pendant 8 jours, c'est ça, ça y est, je me suis spécialité.
Je te jure, dit Septi. Alors voilà, le récit de Septi. Et on va se tourner vers Émile Temim. Émile Temim est historien, il est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Provence, il est directeur du groupe d'histoire à l'École des hautes études en sciences sociales, etc., etc. Et surtout, il est un spécialiste très compétent de l'immigration, notamment à Marseille. Il a publié avec Abdelmalek Sayad un ouvrage sur le choc de la décolonisation et les données nouvelles de la migration. Alors, le regard d'un scientifique, d'un historien, en l'occurrence, sur cette migration.
La migration algérienne, elle a commencé en 1946. Elle a continué, évidemment, dans les années 60, au moment de la grosse migration algérienne, et après les accords d'Évian, après l'indépendance. Et c'est continué par le regroupement familial, après, jusque dans les années 70. Donc, migration, effectivement, occupe une place extrêmement importante, avec une assez grande diversité, justement, dans le comportement, dans l'attitude, dans le rôle même dans la ville. Ceux qui vendent de la viande halal, par exemple, ça marche très bien. Hein. Faut pas croire que tout migrant d'origine algérienne, voire algérien, est un pauvre air. Mais c'est vrai que la plupart sont venus comme travailleurs immigrés, travaillant. En quoi travaillait-on? Bon, moi je les ai vus, je les ai trouvés dans les industries traditionnelles qui sont mortes aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on les embauchait en tant que journaliers. Ils venaient, ils travaillaient, on les embauchait pas un jour, deux jours, trois jours, quelquefois des semaines. Ils remplaçaient les Italiens, enfin, c'était les Italiens qui faisaient ça. Marseille était une ville à construire, à reconstruire, et les types, ils venaient, ils travaillaient dans le BTP, au besoin, ils recevaient une formation en Algérie, tant que l'Algérie était encore sous autorité française. Après, ils recevaient une formation en arrivant. Ils sont quand même à emploi temporaire, la précarité. Il y a même un cas très particulier, c'est les Marocains qui sont venus comme pêcheurs. Ils ont remplacé un petit peu les Italiens là-dessus, mais ils dormaient dans le bateau. C'est plus confortable que de dormir dans certains meublés encore utilisés du côté de Belzunce. Après, il y a eu la construction des foyers. Mais la construction des foyers a été relativement tardive. Hein. Donc ça s'est multiplié. Et ils sont restés, soit dans les hôtels meublés, soit dans les foyers, ils se sont trouvés dans des conditions telles que, au fond, c'était leur monde. Ils sont entre eux quand ils vont au travail, parce qu'on embauche de la même manière, par filière. Le contremaître, c'est souvent un Algérien. Ils sont identifiés, si vous voulez, à un quartier qui est leur lieu de travail, qui est leur lieu de... Donc c'est un monde clos. Et quand on leur dit, par exemple, dans le cadre de la restructuration actuelle, ben, il va falloir que vous vous déplaciez, on leur dit pas, il va falloir que vous vous déplaciez, mais ils n'en ont pas les moyens de rester là. Quand on va passer du loyer ou de ce loyer d'hôtel meublé à un appartement, bon, ils n'ont pas les moyens de se payer appartement. Vous savez, le problème de l'argent, c'est un problème fondamental. Parce que c'est la justification pourquoi je suis parti. Je suis parti parce que je vais gagner de l'argent. Alors, et ceux qui n'en ont pas gagné ou ceux qui se sont retrouvés dans des conditions trop difficiles, ils ne veulent pas montrer ça. Alors, ce qui se passe, effectivement, c'est qu'ils n'ont plus le monde du travail. Ils sont venus pour travailler. Ça, c'est un vieux de Renault qui m'avait raconté ça. Il m'avait dit, moi, qu'est-ce que je suis maintenant? Avant, j'étais ouvrier. Maintenant, qu'est-ce que je suis? Je ne suis plus rien. Leur identité, c'était le travail. Ils étaient un ouvrier. Même s'ils étaient un OS, ils étaient un ouvrier. Justement, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer aujourd'hui parce que l'idée de la dignité du travail, c'est quelque chose qu'on a oublié. C'est une reconnaissance. Vous êtes quelqu'un. Et quand on n'a rien d'autre. Alors, la vieillesse, ça n'arrange pas les choses. Ils sont usés à 50 ans, complètement. Et la maladie, quelquefois, mentale, parce que c'est des déracinés. Hein. C'est pas facile d'être déraciné. Bon, alors qu'est-ce qu'il leur reste en plus? Alors là, on revient à l'argent. Il leur reste peu de choses. Même si vous voulez se déplacer, même le voyage en Algérie, quand ils le font, ça coûte de l'argent. Donc, et actuellement, il y a des problèmes, en particulier sur les vieux qui sont, vont faire un petit tour en Algérie. On leur dit, mais vous n'avez pas résidé.
Qui irradiait des impôts.
Voilà. Ça, c'est une... Alors, j'ai beau être historien, je peux dire que c'est une saloperie. Enlever, en quelque sorte... C'est pas des privilèges, c'est des droits qu'ils avaient, ces gens-là qui ont acquis ça. Bon, c'est absolument immoral.
Manquait ou pas l'Algérie quand, au début?
Moi, pour moi, je te jure, hein, ça me manque rien. J'ai pensé rien qui me manque. Parce que j'étais fier de travailler, gagner l'argent, passer bon temps, tout ça, c'est tout.
Passer bon temps, vous avez rencontré des femmes?
Bien sûr, quand j'étais jeune. La prochaine fois, quand j'ai rentré en Algérie, je vais rentrer au mois de mai, là, à la fin de quoi. J'ai une photo de... Je vais te la montrer.
Mais je pense que vous étiez très beau. Hein.
Merde, c'était sûr. Une fois, j'avais fréquenté une fille. Il y a plus de 30 ans que je connais. Faire 64-66. Je dis, je vais lui marier avec toi. On a paratiné un peu. On était voir le ménage là aussi. On a passé une bonne journée. Je l'ai vu manger avec moi. Je l'ai vu tourner. Je fais ça. J'ai fait une moto. Mobilette, comme on appelle ça. Moto bécane. J'avais amené la vie derrière moi. Quand on a sorti du village, il m'a dit, donne-moi, je vais les conduire. C'est un jour. J'avais le casque, je l'ai donné à elle. Moi, j'étais derrière. J'ai dit, écoute, où tu vas avec moi, là? Et j'ai crié comme ça. Et où tu vas, où tu vas? Il m'a fait rentrer avec elle. On va les coucher chez moi. J'ai dit non, parce que j'ai habité avec les gens comme ici. Avant, ce n'est pas un foyer, ce n'est pas un hôtel, c'est des bungalows.
Vous habitiez dans des bungalows?
Dans les bungalows, mais deux, trois, parce qu'on travaille dans un chantier qui nous a donné les bungalows. On habitait là-dedans, on voulait manger là-dedans et tout. Les bungalows, c'est grand. J'ai dit, mais je ne la mêle pas avec ces gens-là. Ça me fait mal, alors je les laisse. J'ai dit, bon, on va se rencontrer dans la journée, c'est tout. Allez, vas-y.
Et c'est comme ça que ça s'est terminé.
Tout doucement, c'est quitté.
Vous rendez compte, si vous n'aviez pas habité dans un bungalow, vous auriez pu l'amener le soir chez vous?
Mais j'ai dit non. C'est le chef de chantier, ils savent qu'on l'a mis, les femmes, dans les bungalows. Parce qu'on est travailleurs, célibataires, c'est presque interdit, voilà. C'est pas une maison de chez toi, tu fais ce que tu veux. Parce que quand le lendemain il va commencer, il trouve le chantier, c'est pas loin, et il commence la même heure. Là, je regrettais, j'ai dit, si je ne suis pas couché avec les bungalows, si j'avais trouvé une chambre comme maintenant je cherche et je l'ai loué, à ce moment-là, on ne s'y paye pas beaucoup. Quand on travaille, 2 francs à l'heure.
2 francs par heure?
Ben oui, 2 francs. Oui, on gagne 60 000 francs pour tout le mois. Ah oui.
Motobécane, à quoi tient la vie? On va retrouver Émile Témim.
On ne les voyait pas vieillir, c'est-à-dire que brusquement, on se trouve devant un problème. Ces gens, ils ont atteint l'âge de la retraite, ils sont pensionnés parce qu'ils sont malades. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on n'en fait rien. On n'a pas vu venir ce problème de vieillissement. Une fois de plus, si vous voulez, on a l'impression que les administratifs n'envisagent pas l'avenir. Pourtant, quelqu'un qui est venu à 20 ans et qui a passé 40 ans ici, il va avoir 60 ans, il va être à la retraite, et il aura le droit de toucher sa retraite. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'on peut pas se poser la question? Est-ce qu'on peut pas? Ça me surprend toujours, l'incapacité administrative.
Est-ce qu'on a tellement raisonné en termes d'immigration utile qu'on en est arrivé au point de ne pas imaginer?
C'est-à-dire, alors là, si vous voulez, c'est de l'histoire même de l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur les problèmes d'immigration maghrébine en particulier, algérienne en particulier, sont les économistes qui s'en sont occupés. C'est-à-dire que c'était le bassin de l'emploi. Et on revient en ce moment. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle loi sur l'immigration? C'est reprendre cette espèce de leitmotiv. On va prendre des gens et puis on va leur dire après, bon, vous repartez dans votre pays. C'est une illusion, hein. Ça a toujours été une illusion. Jamais, en réalité, ça s'est passé comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça. On en est à la 24e loi, je crois, sur l'immigration, depuis la libération. Bon, on peut en faire encore 24. Ça ne changera strictement pas.
Quand vous regardez toute votre vie,
je n'aime pas retourner de la voir, c'est ça. J'aime pas, parce que je me casse la tête. Si je retourne en arrière, je commence à penser et je vais être pas normal, sûr, je vais être fou.
Vous, vous aimeriez que vos enfants, ils viennent travailler en France?
Non, non, ils ne travaillent pas. J'aimerais qu'ils viennent passer quelques jours de vacances et puis il faut qu'ils soient rentrés.
Vous ne voudriez pas qu'ils travaillent en
France? Non, non. Je ne l'ai pas gardé ici. Et maintenant, il n'y a plus de travail, il y a trop de chômage, il y a trop de politique, il y a trop de machins, il y a trop de machines. Trop. C'est vrai, hein, c'est toujours. Non, non, non. Mais là-bas, ils me respectent. Vraiment, ils m'attendent bien. Et oui. On dit Alhamdoulilah, ça veut dire j'espère bien. Voilà, Alhamdoulilah. Tu connais Alhamdoulilah. Voilà. Ma femme me demandait si j'avais un domicile, je peux y aller passer quelques jours de vacances avec toi. J'ai dit, je n'ai pas de domicile, je ne peux pas l'amener dans un hôtel bourré comme ça, mais.
Comment ça se passe quand vous arrivez en Algérie?
Oui, ça passe normal. Ah oui. Moi, ma femme, tous les dimanches, je sors au marché. Parce qu'on fait le marché tous les dimanches. Les choses qui sont très importantes. Enfin, moi, je me discute. Je me suis en train de dans un café jouer. Je rentre le soir, c'est tout. Quand j'ai téléphone, il me dit, toujours, quand est-ce que tu viens rentrer? Ma femme, mes filles, tout ça. J'ai téléphoné ma fille. Il dit, papa, quand est-ce que tu vas rentrer? Ça, on a besoin de te voir. Bien sûr, ils sont fiers de me voir. Et comment on dit en arabe? Toi, hashtag. Ça veut que ma. C'est comme on dit, je t'aime. Toi, hashtag.
Toi, hashtag.
Toi, hashtag, oui. Ah oui?
يا بغات الطيقو
في سهري فين تقس
مش راضي تغرس 19 سي مغرس يا بغات الطيقو اسمي غيث فغش ثوى الصقم ياكل هوى عقل ياكم الدن تفسود
عقل ياكم الدن تفسود
الاخبار يبيد الزدوى تساوي تسوى غروى يدور الرند الصوت
يدور الرند الصوت
شربوا يلن يتنوى يوغل يتكون يروى فرح النرجس تام الطوط
19 سي مغرس
يبغض الطيقو
يا زهري ليتقص
مش راضي تغرس 19 سي مغرس يبغض الطيقو شرهن يا كوي فلاحن يبضد الوقت الشرزن وفا نظر في ذب وشال
وفا نظر في ذب وشال
أجل بانك ذي باون في مصينك ذي يرذن سافلح في ذراس المال
سافلح في ذراس المال
أكن نقن يزقارن الطيقو في شبوليثن يا رزايا سنية كل حوال
19 سي مغرس
يبغض الطيقو
الزهري بيت القرس
أم شرادي دي غرس 19 سي مغرس يبغض الطيقو تجرى يبدنا من الخيال يوثي توالو ذات تمال توحيد أغضي سمشكام
توحيد أغضي سمشكام
تسعى لي فوركا ونشحات في زورا نسذب وشال وفي غالجذر استركام
وفي غالجذر استركام
تفكاد الحب ذا ملال في سكويت يا بوزال زيغ تجدى ذيك ستوكام
19 سي مغرس
يا بضرد الطيقو
للسهري بيت القرس
أم شرادي دي غرس 19 سي مغرس يا بضرد الطيقو
Merci à Septida Oufir, à Émile Temim et à Nadia Ravi du Centre social de Belzins. C'était un reportage de Pascal Pascariello pour La Basse et J'y suis de Daniel Mermet. Et pour soutenir les Chibanis de Marseille menacés d'expulsion, vous pouvez consulter le site de l'association Le Rouet à cœur ouvert, qui est le Rouet à cœur ouvert en minuscule tout attaché, .blogspot.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse et J'y suis. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyan Guyenne, avec aujourd'hui à la technique Julien Chabassu et Henri Bérec, et le chef du répondeur de La Basse et J'y suis est Christophe Humbert. Vous pouvez lui laisser tous vos messages au 01 56 40 37 37. France Inter, il est 16h. Vous retrouvez les informations avec Claire Servajon.